Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Graphite 94.9, je m'appelle Quentin et aujourd'hui pour cette deuxième émission de l'après-midi, je suis en direct en studio avec Mathilde, Youyou, Sabri, Naomi et Romain. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on se retrouve pour cette avant-dernière émission du semestre autour du cours WE01 de l'UTC, écrire sur le web. Pendant ce semestre, les étudiantes et les étudiants ont travaillé sur un projet autour de questions socio-techniques portant sur le web et viennent vous présenter le résultat de ces travaux aujourd'hui. En quelques mots, de quoi on parle en WE01 ? Eh bien, on parle d'histoire du web, on découvre comment et ce que fonctionne Internet, on parle aussi pas mal de capitalisme de surveillance. Vous en avez peut-être entendu parler de ce terme-là avec tout le système de publicité, de récolte de données personnelles sur les grandes plateformes. Et on observe, on regarde comment est-ce qu'on peut essayer de faire un web différent, notamment avec les logiciels libres et les logiques de décentralisation. Tout au long du semestre, les travaux se structurent autour de la lecture d'articles scientifiques et d'écriture d'articles aussi au format scientifique. Et vous avez travaillé sur le sujet qui portait le nom de la société algorithmique. Et Mathilde, c'est à toi.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est partout autour de nous, souvent sans qu'on s'en rende compte. On va donc parler des algorithmes. Ces programmes analysent des données et prennent des décisions qui influencent nos vies. Ils nous recommandent des films, des produits, mais ils interviennent aussi dans des domaines beaucoup plus sérieux tels que la justice, la sécurité ou l'éducation. Si ces outils rendent nos vies plus pratiques, ils posent aussi des questions importantes, comme par exemple, qui décide de leur fonctionnement ? Quels impacts ont-ils sur nos libertés, nos choix, nos relations ? Et face à cette influence grandissante, comment peut-on encore résister ou contester ? Donc dans cette émission, on va explorer comment ces algorithmes transforment nos vies au quotidien, comment ils redéfinissent les relations de pouvoir et comment ils changent les règles du jeu dans notre société. Donc tout d'abord, on verra ce qu'est une IA, ce qu'elles sont capables de faire. Puis on parlera de l'efficacité des algorithmes. Ensuite, on expliquera ce qu'est la panoptique. Et on abordera les moyens de lutte mis en place contre les algorithmes avant de vous parler des solarpunk, un nouveau genre littéraire. Donc pour mieux comprendre ces questions, on va d'abord s'intéresser à ce qu'est réellement l'intelligence artificielle aujourd'hui et à comment elle fonctionne dans nos vies quotidiennes. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est plus seulement un concept futuriste évoqué dans des œuvres de science-fiction. Elle est devenue une réalité omniprésente et un outil incontournable dans de nombreux domaines. L'IA permet de traiter et d'analyser des volumes massifs de données, des quantités tellement gigantesques qu'elles dépassent largement la capacité humaine à les exploiter manuellement. Cette prouesse repose sur des technologies avancées, notamment le machine learning, donc les machines apprennent à partir de données qu'on leur fournit, mais aussi du deep learning, une méthode qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour traiter et interpréter des informations complexes telles que des images, des textes, des sons. Prenons le cas de la vidéosurveillance algorithmique. Dans ce domaine, des caméras équipées d'intelligence artificielle sont capables d'analyser en temps réel des images capturées. Grâce à des algorithmes sophistiqués, elles peuvent détecter automatiquement des comportements jugés suspects, comme par exemple des mouvements inhabituels ou des situations anormales. Et cela offre un énorme potentiel pour la prévention des incidents ou pour améliorer la sécurité dans les espaces publics. Cependant, cette technologie n'est pas sans controverse. Elle soulève des questions éthiques majeures, notamment celles liées à la vie privée et au risque d'une surveillance permanente, parfois perçue comme intrusive. L'IA ouvre donc des perspectives fascinantes, mais elle nous invite également à réfléchir à la façon dont nous souhaitons l'intégrer dans nos vies et dans nos sociétés. Les bénéfices qu'elle apporte doivent être mis en balance avec les défis qu'elle pose afin de garantir un usage éthique et responsable de cette technologie en constante évolution. Donc pour illustrer ce que je viens de vous dire, on va écouter un extrait d'une émission de France Culture qui s'appelle « Technosurveillance, halte à l'IA », qui traite des conséquences de la mise en place d'une vidéosurveillance, notamment dans un cadre de sécurité.
photographier, on sait exactement où ça nous mène, ce genre de...
D'ailleurs, Félix Trégard, ça me fait penser à un extrait d'une de vos interviews, hein, où vous dites, vous rappelez hein, que si pendant la Seconde Guerre mondiale, la police avait eu accès à ce genre de dispositif, la résistance aurait eu du mal à s'installer face au régime nazi. Et vous rajoutez hein, que ce précédent historique doit nous rappeler qu'installer ces formes de surveillance totale et permanente est incompatible avec la vie démocratique.
Et oui, parce qu'en fait, ce qu'induit l'utilisation de l'intelligence artificielle en lien avec la vidéosurveillance, c'est que d'un coup, ces capteurs vidéo, dont on pouvait se dire, oui, c'est archivé pendant 10 jours, de 10 à 30 jours, mais bon, il y a tellement de caméras et tellement peu d'opérateurs humains qu'en fait, la plupart des bandes vidéo n'ont aucune utilité policière. C'est vraiment ça que transforme la VSA, c'est-à-dire que les formes de surveillance systématique de nos communications Internet, qui sont devenues malheureusement une réalité depuis plus d'une dizaine d'années, sont en train de migrer dans l'espace physique, l'espace de la rue, sous l'égide de ces parcs de vidéosurveillance gérés par les polices municipales et la police nationale ou la gendarmerie. Donc on est vraiment dans un contexte où ces technologies permettent d'archiver nos interactions, nos déplacements de manière constante, et ça va changer notre rapport à la ville et nos rapports sociaux de manière plus large.
Vous montrez... Donc dans ce passage, Félix Tréguet met en lumière les risques et les dérives potentielles associées à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la surveillance. Derrière la promesse d'assurer notre sécurité, ces technologies peuvent facilement être détournées pour devenir des outils de contrôle social qui restreignent nos libertés individuelles. Cette évolution soulève donc des inquiétudes légitimes quant à la frontière entre protection et intrusion. Prenons par exemple donc les systèmes de vidéosurveillance. Comme dit précédemment, sous prétexte de détecter des comportements suspects ou de prévenir des incidents, ces dispositifs enregistrent, analysent et parfois même interprètent nos moindres mouvements. Mais qui décide de ce qui constitue un comportement suspect et que se passe-t-il lorsque ces systèmes se trompent ? Ce point rejoint une problématique centrale. Qui contrôle ces technologies et comment sont-elles encadrées ? Les algorithmes qui les font fonctionner sont souvent qualifiés de boîtes noires parce qu'ils reposent sur des modèles si complexes qu'ils restent difficiles à comprendre, même pour les experts en IA. Cela signifie que les décisions prises par ces systèmes, comme l'identification d'une personne ou la qualification d'un comportement, sont rarement expliquées ou justifiées de manière claire. Les citoyens, eux, se retrouvent exclus des débats autour de ces outils, alors même qu'ils en subissent les conséquences. Par exemple, des études ont démontré que les systèmes de reconnaissance faciale présentent des biais importants, notamment raciaux ou de genre, menant à des erreurs d'identification qui peuvent avoir des impacts graves sur la vie des individus concernés. Un autre danger mis en avant est celui de la normalisation progressive de la surveillance dans nos sociétés. Plus nous acceptons ces dispositifs comme indispensables à notre sécurité, plus nous risquons de sacrifier, souvent inconsciemment, des droits fondamentaux tels que la vie privée ou la liberté d'expression. Par exemple, l'idée de vivre sous un œil constant, que ce soit dans l'espace public ou privé, peut limiter notre capacité à critiquer ou à contester les institutions. Cela pose alors une question cruciale, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour un sentiment de sécurité et surtout à quel prix ?
Merci Mathilde. Comme tu le soulignes, la surveillance dans l'espace public ne cesse pas de croître en France. Le site technopolis.fr le rappelle bien, les dispositifs de surveillance algorithmique prolifèrent sans que leur efficacité soit prouvée, tandis que leurs conséquences sur les libertés publiques restent largement ignorées. Pourtant, ces défenseurs mettant en avance l'efficacité de ces outils pour justifier leur adoption. Mais de quoi parle-t-on réellement quand on parle d'efficacité ? Je vous invite à découvrir une vidéo sur la chaîne YouTube, la quadrature du net, qui va vous expliquer ce que cette technologie surveillance algorithmique.
Comme sa cousine la reconnaissance faciale, la vidéosurveillance algorithmique est un outil de surveillance biométrique. Elle analyse les flux vidéo des caméras de vidéosurveillance afin d'alerter la police ou des agents de sécurité privés lorsqu'ils détectent un événement considéré comme suspect. Concrètement, ce sont des logiciels qui analysent en permanence tous nos comportements dans la rue pour les classer comme étant normal ou anormal. Aujourd'hui, les flux vidéo des caméras de surveillance de l'espace public sont centralisés à l'échelle de communes ou d'agglomérations de communes dans des grands centres avec des écrans que l'on appelle centres de supervision urbains ou CSU. Ce sont des agents municipaux qui les regardent et déclenchent une intervention policière lorsqu'ils pensent être témoins d'une activité délictuelle ou criminelle. L'objectif de ces agents est de multiplier les arrestations en flagrant délit. La vidéosurveillance algorithmique, elle, vise à automatiser le travail de ces agents en utilisant des logiciels qui déclencheraient des alertes de manière automatique.
Pour la vidéosurveillance classique, c'est relativement simple. On regarde le nombre d'enquêtes résolues grâce aux images captées. En revanche, avec la surveillance algorithmique, c'est beaucoup plus flou. Comment prouver qu'un crime a été évité grâce à un algorithme? À défaut, on peut s'appuyer sur des statistiques globales, comme l'évolution du nombre de crimes et de délits. Mais ce type d'enquête indicateur à ses limites. Florent Castanino, chercheur à Sciences Po, décrit cette situation dans son article « Rendre intelligentes les caméras ». Intégration de l'intelligence artificielle déplace le travail des opérateurs de surveillance, vidéosurveillance qui se focalisent désormais sur les alertes générées automatiquement. Le risque, c'est que ces alertes introduisent de nouveaux biais, redéfinissant ainsi la manière dont le soupçon est construit et ciblé. Une étude plus large publiée en mai 2024 par Li Jong-sop et son équipe du département de criminologie à UCL apporte un éclairage intéressant. Sur les rares études menées dans le monde réel, seuls 3 travaux prennent en compte un phénomène bien connu, le déplacement des crimes, c'est-à-dire leur migration hors des zones surveillées, et leurs résultats. Il montre un impact modeste sur la prévention, bien loin de ce qu'annoncent souvent les promoteurs de ces technologies. Mais ce qui m'interpelle encore plus, c'est la proportionnalité des risques et des bénéfices. Si l'efficacité est incertaine, quels sont les risques? Le site technopolis.fr insiste sur les effets délétères pour nos libertés publiques, tandis que les travaux du sociologue Max Weber restent toujours l'actualité. Il affirme déjà que l'augmentation des capacités techniques des systèmes bureaucratiques tend à servir leurs propres intérêts et à s'auto-renforcer. Les pouvoirs donnés, par exemple, à la police sont extrêmement difficiles à reprendre. Et là se pose une autre question, comment faire marche en arrière? Si demain ces outils se révèlent inefficaces, il ne s'agira pas seulement d'un choix politique, mais aussi d'une question économique. En effet, l'industrie de la surveillance représente un secteur entier qui pourrait s'opposer à toute remise en cause. En bref, entre efficacité discutable, risque pour les libertés et intérêts économiques puissants. Il devient de plus en plus difficile de justifier cette génération de la surveillance algorithmique. Comme le soulignait technopolis.fr, les gouvernements avancent sans preuve réelle de leur utilité. Et Sabri, dans un instant, nous parlera des effets concrets de cette surveillance sur le comportement des individus.
Merci Yuyu. Alors la surveillance, qu'elle soit discrète ou non, n'est pas une pratique récente. On la retrouve déjà en Égypte antique, où les pharaons engageaient des fonctionnaires appelés scribes pour s'assurer du bon déroulement des activités économiques. Plus tard, dans les monarchies, l'espionnage est exercé notamment pour des motifs religieux ou pour trouver des opposants. Les formes de surveillance se sont largement diversifiées au cours du temps. On remarque, ces dernières décennies, que la notion de panoptique revient assez souvent pour décrire le fonctionnement de la surveillance dans nos sociétés modernes. Le panoptique est une architecture carcérale imaginée par le philosophe britannique Jeremy Bentham au XVIIIe siècle. Sa particularité réside dans la possibilité d'observer tous les prisonniers sans qu'ils ne puissent savoir s'ils sont surveillés ou non. Sous cette pression, ils se conformeraient aux règles et seraient plus facilement réintégrés dans la société. Cette idée prend une nouvelle dimension quand le philosophe français Michel Foucault publie son ouvrage « Surveiller et punir » en 1975. Foucault a décrit le panoptique comme un modèle de discipline applicable à toutes sortes d'institutions modernes. La légalisation de la vidéosurveillance en 1995 a suscité une importante contestation des défenseurs des libertés qui dénonçaient la matérialisation d'un panoptique. D'après une étude réalisée par la Gazette, la mise en place des systèmes de vidéosurveillance dans les 50 villes les plus peuplées en France a été multipliée par 2,4 entre 2013 et 2020. Par exemple, le plan de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris, ou PVPP, décidé en 2010, a été conçu pour déployer 1000 caméras sur le territoire parisien pour un montant de 225,1 millions d'euros. Suite aux attentats de 2015, le PVP change de dimension et s'étend sur une région plus large, avec un effectif de caméras ayant plus que triplé entre 2010 et fin 2020. Le coût complet à terminaison du projet est estimé entre 433 et 481 millions d'euros, le tout selon le référé S2021-2194 de la Cour des comptes. Pourtant, dans un rapport public thématique en octobre 2020 concernant les polices municipales, les magistrats de la Cour des comptes indiquaient qu'ils n'avaient trouvé aucune corrélation globale entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique ou encore les taux d'élucidation. L'intégration de l'IA et des algorithmes dans les caméras a permis de rendre automatique l'analyse des images captées alors qu'elles se faisaient par des êtres humains. Cela rend la vidéosurveillance, alors dite algorithmique ou automatique, ou VSA, opérationnelle à tout instant et dans beaucoup plus de lieux en même temps. A priori, cela ne devrait pas poser problème, puisque son utilisation est encadrée par la Cour de sécurité intérieure. La VSA peut être utilisée dans le cadre d'enquêtes par la police ou par une autorité compétente. À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, elle a été expérimentée dans un contexte de sécurité et continue à l'être jusqu'en fin mars 2025. Selon Quentin Barren, cofondateur de la société Wintix, à qui la surveillance de l'Île-de-France, des stations, des gares de la SNCF et de la RATP a été confiée pour l'événement, la technologie employée n'est pas équipée d'identification biométrique telle que la reconnaissance faciale, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2023. Mais l'expérimentation de la VSA au JO a fait l'objet de controverses. Une importante partie de caméras de surveillance ont été placées dans les arrondissements centraux de Paris, au détriment des régions où le taux de criminalité est plus élevé. Les études montrent que la VSA n'apporte pas de résultats concluants. Mais qu'apporte-t-elle d'autre ? Il faut savoir que les JO n'ont pas été la première occasion d'expérimentation de la VSA. Elle s'est faite un peu partout en France. À Nîmes depuis 2015 avec la société israélienne Briefcam, à Marseille depuis 2018 avec le groupe français SNEF, à Suresnes avec la start-up parisienne XXII, ou 22 en chiffres romains, ou encore à Paris en lien avec la RATP, qui autorise des entreprises à tester leurs algorithmes sur les utilisateurs du métro. La Quadrature Tunnet, association de défense des libertés numériques, estime qu'une centaine de villes utiliseraient déjà la VSA en toute illégalité. Un autre problème est que ces technologies peuvent avoir recours à la reconnaissance faciale. J'aimerais partager avec vous un extrait audio d'une interview de Félix Tréguet, chercheur au CNRS et membre de la Quadrature du Net.
Mais il y a quand même l'intégration, par exemple, dans ces algorithmes, de croyances criminologiques complètement erronées. Par exemple, l'idée que la petite délinquance va entraîner la grosse. Des petites infractions ou même des incivilités vont entraîner une dégradation criminogène de tel ou tel quartier. Ça, c'est des thèses qui sont issues de la criminologie états-unienne des années 80, qui ont été complètement instrumentalisées pour armer une espèce de harcèlement des quartiers populaires par les élites conservatrices aux États-Unis et qu'on voit reprises en fait dans les conceptions de ces algorithmes. La vidéosurveillance algorithmique, de la même manière, en fait, dans les cas d'usage qu'on a pu documenter au niveau des polices municipales en France, on essaye par exemple de détecter des personnes statiques ou des personnes qui courent. Mais bon, si on s'arrête par exemple sur le cas des personnes statiques, ben, qui est statique dans l'espace public urbain aujourd'hui ? Ben, c'est des personnes qui vivent à la rue, par exemple. Et donc, on peut bien voir comment en fait, ces technologies s'inscrivent aussi dans des formes de harcèlement, de certains modes d'occupation de l'espace public qui sont généralement associés aux personnes les plus précarisées ou de manière plus générale aux classes populaires. Et donc,
ce que considèrent les IA comme suspect et donc subjectif, on retrouve finalement le panoptique que Foucault avait décrit, puisque la VSA exerce une pression de façon assez souple qui va mettre à risque certains groupes d'individus défavorisés par leur situation et qui va les inciter à changer de comportement. La discrétion de ce pouvoir permet à son exercice de perdurer. D'après un article d'Ivan Munaka, enseignant-chercheur à l'université d'Oxford, l'utilisation de la VSA a bien un impact d'autocensure sur la société. On aboutit à la conclusion que la vidéosurveillance, déployée pour maintenir la sécurité, n'a pas fourni de preuves satisfaisantes malgré l'investissement accordé et qu'en plus, elle a des effets discriminatoires. Alors, que faire pour lutter contre le développement de cette surveillance de masse ?
Donc en ce qui concerne la lutte et la régulation de la société algorithmique, celles-ci prennent forme de plusieurs manières. Tout d'abord, il existe une régulation juridique qui passe donc par l'existence de garde-fous juridiques afin de réguler l'utilisation des algorithmes par les entreprises ou encore les services de renseignement. Parmi ces entités, on retrouve principalement la CNIL et la CNRCTR en France. La CNIL, soit la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et d'après son site, une autorité administrative indépendante ayant pour rôle de veiller à la protection des données personnelles. Dans ce but, elle peut conseiller les organismes afin de les aider à se conformer à la loi et les contrôler dans le but d'assurer le respect de celle-ci. En cas de non-respect avéré, la CNIL peut appliquer des sanctions financières à l'encontre de l'organisme. La CNIL a également pour mission d'informer les citoyens de leurs droits et de protéger ceux-ci. Quant à la CNRCTR, soit la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, celle-ci a pour fonction de contrôler l'utilisation des techniques de surveillance par les services de renseignement. Selon son site web, il s'agit également d'une autorité administrative indépendante qui donne des avis au Premier ministre concernant le lien des techniques de surveillance avec les intérêts fondamentaux de la nation définis par la loi du 24 juillet 2015. Cet avis est essentiel car ce lien est nécessaire à la mise en place de la technique. En cas d'avis défavorable, le Conseil d'État est saisi et doit statuer dans un délai de 24 heures sur l'autorisation de la technique. À présent, j'aimerais vous partager un extrait audio de la Quadrature du Net, une association française qui milite pour les droits et les libertés numériques concernant une plainte collective déposée par l'association contre la Technopolis. Ce terme fait référence au dispositif de surveillance de masse employé par la police.
Il y a 4 ans, la Quadrature du Net lançait l'initiative Technopolis pour recenser les nouvelles technologies de surveillance installées dans les villes de France. Vidéosurveillance généralisée, analyse automatique des flux vidéo, fichage des visages, utilisation de ces fichiers pour faire de la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, derrière ces caméras qui nous observent, se déploie un gigantesque système de surveillance généralisée auquel il nous faut mettre un terme le plus rapidement possible. Nous lançons donc une plainte collective contre le ministère de l'Intérieur qui utilise illégalement ces technologies. La base de notre action est la suivante. Selon la loi, pour qu'une caméra soit posée, il faut prouver la nécessité de sa présence. Mais il a été démontré que ce n'était jamais le cas. La pose de caméra est devenue un investissement facile pour certains élus dans leur ville pour se donner l'image de lutter contre l'insécurité, alors même que les infrastructures se dégradent et que des immeubles tombent en ruine. Depuis quelques années, ces caméras se retrouvent équipées de logiciels d'intelligence artificielle pour alerter la police et les agents municipaux de certains comportements. Les comportements ainsi traqués, tags, mendicité, maraudes,
ainsi, malgré l'existence d'organismes de contrôle, les entités publiques et privées utilisant les algorithmes ne respectent pas toujours la loi. Ce phénomène s'explique en partie par le manque de pouvoir accordé à ces organismes. En effet, la CNIL et la CNRCTR n'ont qu'un rôle consultatif. De plus, leurs champs d'action sont limités par la loi, la CNIL n'ayant plus depuis 2004 la possibilité de bloquer la création de nouveaux programmes de surveillance par le gouvernement, d'après Félix Traeger, chercheur associé au CNRS. Ainsi, il apparaît alors légitime de se poser la question de la lutte citoyenne. En France, on retrouve par exemple le cas de la Quadrature du Net, association présentée précédemment. Celle-ci lutte plus précisément pour que nos données personnelles ne soient pas considérées comme des marchandises, pour qu'aucune entreprise ou État ne puisse surveiller nos comportements et nous manipuler à des fins commerciales ou politiques, notamment en sélectionnant la publicité et les informations que nous recevons, selon son site web. Elle lutte aussi pour qu'aucune décision sur nos vies ne soit prise automatiquement sur la base de ces données. Elle utilise des moyens légaux afin de lutter contre les algorithmes. Par exemple, l'association milite pour la mise en place de réformes telles que l'arrêt La Quadrature du Net du 6 octobre 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne. Cet arrêt a confirmé que la conservation des données de connexion telles que les adresses IP ou les données de localisation est illégale. La France, qui impose la conservation des données pendant un an, a choisi de ne pas respecter l'arrêt de la CGUE, plus haute juridiction européenne. La Quadrature du Net a notamment créé le collectif Technopolis, dont le but est de documenter et de combattre la surveillance de masse au travers de recours légaux collectifs, de lanceurs d'alerte et de vulgarisation. Le collectif s'appuie sur des groupes locaux, comme à Lyon, Marseille ou Montpellier. En vue des difficultés pour réguler et lutter contre la société algorithmique, peut-on alors imaginer un futur positif dans cette société ?
Nous avons vu que l'utilisation des algorithmes tels que l'IA dans notre société a besoin d'être régulée car ils prennent de plus en plus de place, jusqu'à même nous priver de nos libertés, ce qui peut être perçu comme un déclin de la société. Néanmoins, certains mouvements littéraires cherchent à proposer une société dans laquelle le progrès est une importante composante. C'est le cas par exemple du solarpunk. C'est un mouvement littéraire et artistique né au début du XXIe siècle. Ce mouvement qui dérive de la science-fiction a pour but de proposer une vision plus décentralisée de la société. Dans les solarpunk, on retrouve souvent un environnement très développé dans lequel les enjeux climatiques ont été réglés, ainsi qu'une société alimentée par des énergies renouvelables. Le solarpunk permet donc de proposer une vision optimiste de l'avenir, ainsi qu'une forme d'espoir face à la domination de plus en plus croissante des intelligences artificielles dans notre société. Je vous propose d'écouter un extrait d'un podcast de Charles Trahan présentant quelques œuvres majeures de ce mouvement.
Quelles œuvres peuvent être associées au solarpunk? Ben, la première fondatrice serait Écotopia, un livre de l'auteur américain Ernest Kallenbach, peut-être vous l'avez lu, paru en 1975, un modèle rare de science-fiction utopique. Le roman d'Ernest Kallenbach imagine la fondation d'une nouvelle nation entièrement dévouée à la construction d'un mode de vie durable, en harmonie avec la nature, zéro déchet, zéro pollution, pour un équilibre perpétuel entre l'homme et son environnement. Dans son livre, c'est la côte ouest américaine qui s'est séparée du reste des États-Unis pour devenir cette république autonome autogérée, environnementale, Écotopia. On réinvente l'organisation du travail avec une semaine de 20 heures. La relation humain-nature est très symbiotique, inspirée par les cultures amérindiennes notamment. Un livre, en fait, qui ouvre des possibles pour réinventer notre rapport à la nature, notre façon de voir les choses. Et dans ce mouvement, d'ailleurs, du solarpunk, on peut également souligner une autre très grande inspiration, c'est toute l'œuvre du cinéaste japonais Hayao Miyazaki, qui a très certainement créé une esthétique de ce mouvement utopique, de cette relation humain et nature. Pensez à Princesse Mononoke, Ponyo ou encore Mon voisin Totoro. Sinon, en 1996, une comédie douce amère de Colin Serrault, La Belle Verte, Vincent Lindon et Marion Cotillard. Plus récemment, pensez à Black Panther, avec son royaume secret d'Afrique, où tous vivent en parfaite harmonie avec la nature, mais tout en jouissant d'une technologie excessivement futuriste. Depuis une quinzaine d'années, le mouvement solarpunk bourgeonne, ici et là, sur les réseaux sociaux. De plus en plus de créateurs s'en emparent, diffusent des œuvres, des images, des idées. Surtout des créateurs qui viennent plus particulièrement des nouvelles puissances culturelles, que sont le Brésil, l'Inde ou la Chine. Nous ici, on est peut-être encore trop occupés à se plaindre qu'avant c'était mieux. Donc pour ceux qui sont tannés du sombre, du noir dans la science-fiction, réjouissez-vous, un autre monde est possible, ça s'appelle le solarpunk. C'était en 5 minutes.
De plus, le solarpunk n'est pas seulement un mouvement dans lequel des fictions sont racontées. Le solarpunk a pour volonté de proposer un monde meilleur, un monde plus équitable et inclusif, un monde où le capitalisme a disparu pour être remplacé par un ensemble de communautés décentralisées mettant en commun leur savoir au nom du progrès général. De plus, certaines propositions de ce mouvement ne sont pas que des hypothèses, car certaines ont déjà vu le jour dans notre société actuelle, telles que les coopératives de travail ou encore des réseaux d'aide mutuelle. Après avoir découvert ce mouvement dans le cadre de l'UVWE1, nous nous sommes essayés au mouvement solarpunk en écrivant une nouvelle dans laquelle les algorithmes ont une place importante dans la construction et le développement de la société. De plus, cet essai au solarpunk va venir clore notre intervention sur les impacts des sociétés algorithmiques dans notre société en mettant en avant une société dans laquelle les IA est parfaitement intégré et contribue pleinement aux croissances sans y nuire. Tokyo, 2310. La ville bourdonne du son des drones pollinisateurs et des rires d'enfants courant entre les jardins flottants. La nature, autrefois en danger, s'épanouissant enfin, envahissant les immeubles et rues. Après les 6 bombes nucléaires qui avaient dévasté le monde en 2100, la Terre s'était peu à peu soignée et les technologies de Tokyo, autrefois conçues pour le profit, permettaient désormais par leur puissance nouvelle d'accélérer le développement de la nature, ce qui aida grandement les humains pour rebâtir la Terre sous une nouvelle forme. Owei, 17 ans, était un prodige des technologies bionumériques, un apprenti des algorithmes. Il avait grandi dans les jardins de Senzuka, un quartier ancien transformé en centre de formation pour les jeunes talents de l'informatique. Connu pour sa capacité à écrire des codes, Owei s'impliquait avec passion dans la défense de la cité verte et des systèmes fragiles. Une de ses créations phares est un programme qui permet de nettoyer les rues tous les soirs, ce qui fait qu'Owei est apprécié de tout le monde dans son quartier. Dans cette ville de Tokyo, les bâtiments respiraient littéralement. Composés de biomatériaux, ils absorbaient le CO2 et contribuaient à purifier l'air. Les habitants, eux, portaient des vêtements biodégradables et menaient des vies simples et connectées. Les ordinateurs, alimentés par des réseaux solaires, n'étaient plus de simples machines, mais des éléments de l'écosystème urbain. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce qu'un jour, un algorithme du passé réapparaisse, XB32. XB32 était une intelligence artificielle née à la fin du siècle dernier. Dans les derniers jours de l'humanité prédigitale, il devait être conçu pour archiver le savoir humain pour les générations futures. Mais la société prédigitale étant ce qu'elle est, l'envers du décor n'est pas si simple. Cette intelligence artificielle avait en effet été conçue pour stocker le savoir collectif, mais non pas dans un but de mémoire. Elle avait été créée pour que chaque action de chaque habitant soit enregistrée, que l'on puisse retracer tout ce que les gens faisaient pour mieux les contrôler. XB-32 avait déjà fait des ravages avant la catastrophe nucléaire, ce qui n'était pas remarquable par un humain, l'étant devenu, et le moindre écart à la règle était donc puni. Mais alors que tout le monde pensait qu'elle avait disparu, c'est en 2300 qu'elle réapparut plus puissante que jamais. Elle avait, pendant ces quelques années de disparition, appris d'elle-même. Si elle avait pu tout enregistrer, pourquoi ne serait-elle pas capable de tout supprimer ? XB-32 commença par faire disparaître des archives historiques, puis les cartes de répartition des ressources énergétiques, les bases de données essentielles à la gestion de Tokyo. Peu à peu, les citoyens remarquèrent des trous, des fragments manquants, des pages blanches dans les archives. Owei, comme d'autres, comprit rapidement qu'il y avait un problème. Grâce à ses talents en informatique, il identifia rapidement la source du problème et il comprit que si rien n'était fait, XB-32 dévorait toute la mémoire collective jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il décida alors de s'attaquer à XB-32. Même si le défi semblait impossible, comment affronter une IA presque indétectable, nichée au cœur même du réseau ?
Merci beaucoup à vous cinq pour cette présentation autour de la société algorithmique et pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient continuer à suivre les émissions. On continue dans 15 minutes, 10-15 minutes avec la dernière émission donc, de cette saison de WE01. Ce sera sur les intelligences artificielles à l'école et l'université. À tout de suite.